Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah, bonjour.
Bonjour Virginie.
Alors comment ça va Déborah aujourd'hui ?
Eh bien ça va, on fait aller.
On fait aller. On est dans le bien consommé, on est dans notre rapport à la nourriture également. Donc bref, comme je le disais sur une autre émission, nous culturons, consommons avec vous. Et aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau sujet donc. Alors de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une difficulté très fréquente quand on a son rapport alimentaire perturbé et que beaucoup de personnes vivent. Cette difficulté, c'est celle des compulsions ou des pulsions alimentaires, qu'on définit comme des pertes de contrôle alimentaire, c'est-à-dire une incapacité à s'arrêter de manger malgré la volonté de le faire. Et ces périodes, en fait, sont tout le temps et toujours mal vécues ou mal comprises. Donc, ce comportement alimentaire crée vraiment des désastres cognitifs et ou physiques qui plongent les personnes qui en souffrent dans un cercle vicieux un peu infernal où les conséquences sont souvent néfastes. Ça les entraîne dans un sentiment d'échec permanent où ils ont l'impression de ne pas avoir d'issue et ça abîme la confiance en elles, leur estime et leur relation à elles de manière générale. Et donc, la compréhension de ce comportement alimentaire permet souvent de limiter, voire de supprimer la récidive ou tout simplement de mieux vivre ce moment en posant de la légitimité dessus. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit point aujourd'hui sur ces compulsions alimentaires et déjà sur ce qui est vraiment une pulsion, sur ce qui n'est pas une pulsion parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus et les différents facteurs en fait qui les déclenchent.
Alors vous qui êtes diététicienne et nutritionniste, est-ce que justement à ce titre vous en rencontrez beaucoup des gens qui font ce genre de compulsion alimentaire ? J'ai l'impression que ça a l'air d'être assez courant quand même, non ?
En fait, moi, je travaille énormément sur le comportement et la relation à l'alimentation. Je suis ce qu'on peut appeler une psychonutritionniste. Et donc, effectivement, moi, dans mes patients, j'ai 90% des personnes qui en font. Alors, peut-être pas, mais j'ai 90% de mes patients qui ont des difficultés dans la relation à l'alimentation. Et sur les 90%, je dois avoir 70% qui font des pulsions ou des compulsions alimentaires. Donc oui, bien sûr, c'est très fréquent dans mon quotidien en tout cas.
On va voir les compulsions, ce que c'est. Est-ce qu'ils ne sont pas des compulsions finalement ? Parce que les gens peuvent s'imaginer peut-être, bah tiens, je mange un peu trop là à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il y a des besoins aussi. Qu'est-ce qui n'est pas une compulsion finalement déjà ?
Oui, alors déjà, qu'est-ce qui n'est pas une compulsion ? Assouvir une envie de manger un aliment précis, comme par exemple avoir envie de manger du chocolat et le manger tout simplement. Ce n'est pas une compulsion. Avoir faim et manger à des heures qui ne sont pas conventionnelles, ce n'est pas une compulsion. Si je fais un repas à 17 heures, je ne suis pas en train de faire une compulsion. Écouter son corps et manger jusqu'à rassasiement, qui, je le rappelle, est bien avant ce sentiment de lourdeur digestive, ce n'est toujours pas une compulsion. Décider de se resservir une deuxième part, même si on est la seule à vouloir se resservir une deuxième part, c'est toujours pas une compulsion.
C'est de la gourmandise.
Ouais, ou ça peut être juste une envie, oui, tout simplement. Choisir le plat qui nous fait vraiment envie et non pas celui qu'il faudrait que nous choisissions, c'est pas une compulsion.
Les frites,
pareil. Oui. Il faudrait que je mange des légumes, j'ai choisi des frites. Je suis pas en train de faire une compulsion. Et être la seule personne à prendre un dessert au restaurant ou ailleurs, d'ailleurs, ça n'est pas une compulsion. C'est très, en fait, je précise que tous ces comportements ne sont pas des compulsions alimentaires parce que j'ai beaucoup de mes patients qui les confondent et pensent faire des crises quand il ou elle emprunte un de ces chemins ou un chemin qui n'est pas celui de la raison, quoi.
Oui, oui.
Donc, en général, quand je leur demande de me décrire ce qu'ils appellent être une crise de compulsive, il s'agit presque toujours d'une lutte avec leur mental sur des comportements alimentaires qui sont juste normaux. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est normal. C'est des choses qui font partie d'une alimentation et d'un rapport à l'alimentation serein.
Ah, vous parliez lors d'une dernière émission du goûter, justement, et quand vous parliez du fait que ce n'est pas une compulsion que de manger à des heures non conventionnelles, du coup, le goûter en fait partie, ça n'est pas une compulsion.
Pas du tout, mais pas du tout. C'est quelque chose qui fait partie de l'équilibre alimentaire.
Il y a des gens qui pourraient penser
évidemment.
Ça. Hein.
Oui. Il y a des gens qui pensent ça, bien sûr. Et donc, sauf que le problème, c'est que quand on a une relation à l'alimentation qui est perturbée, Notre référentiel, en fait, notre cadre de référence se pose sur celui du poids, très souvent, et non sur celui du corps. Et donc, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, ne va pas être calée sur le bon mood, quoi. Vous voyez, c'est comme si on pensait voyage, mais on était en train de réfléchir cuisine. C'est deux choses qui sont différentes. Et donc, on ne peut pas forcément avoir un avis ou une perspective, une prise de recul suffisamment sereine
Ou logique ce que c'est, ouais.
Quand on a une relation, notre référence absolue, c'est celle du poids et pas du corps. Quoi. Mmh.
Alors justement, vous êtes là, Déborah, pour nous aider, nous, qui avons des compulsions alimentaires. Alors justement, maintenant qu'on a vu ce qui n'était pas compulsion, qu'est-ce qu'une compulsion alimentaire finalement ?
Et oui, alors du coup, la définition de la compulsion alimentaire, elle est assez claire, même si c'est souvent confondu avec de la boulimie. Et pour cause, hein, parce qu'il y a une similitude dans la façon de faire. La compulsion alimentaire pourrait se traduire à travers une perte de contrôle alimentaire menant à l'ingestion d'un nombre d'aliments conséquents sur une courte durée. En général, on a requis 2 heures. Ce qui, en fait, manger une grosse quantité d'aliments dans les 2 heures. Ce qui la différencie de la boulimie, en fait, c'est en son apport énergétique. Dans une crise de boulimie, on dépasse les 3000 kilocalories dans la crise, alors qu'on est en dessous quand on fait une compulsion. Et donc, on va aussi ingérer des aliments qui sont différents. Dans une crise de boulimie, on peut se retrouver en fait à manger des aliments à l'état brut. Des légumes surgelés, du beurre, ce qui n'est pas le cas dans une compulsion où c'est quand même beaucoup plus rationnel et raisonné. Et donc, pour être caractérisé, en tout cas en compulsion dans le sens médical, les crises compulsives doivent être avec une fréquence au moins de 2 par semaine. Si on n'en fait qu'une fois par mois, c'est pas significatif, en fait, du tout.
Mmh. Eh ben écoutez, c'est ce que je viens de faire, une crise de boulimie de Déborah, parce que j'ai oublié la pause. Donc voilà, je vous écoute et puis pouf, je suis partie.
Ok.
Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite pause. On revient tout de suite après. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à Déborah, pour cela, donc un numéro, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Alors j'en profite également pour dire qu'on peut retrouver toutes vos émissions, bien sûr, les archives et écouter les émissions sur le site de Nutriradio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous revenons avec Déborah sur Nutri Radio, donc la radio qui soigne le corps et l'esprit. Aujourd'hui, la thématique, c'est donc sur les compulsions alimentaires. Alors, nous avons vu ce qui n'était pas une compulsion alimentaire, nous avons vu ce qui était une compulsion alimentaire. Alors, on va voir peut-être avec vous maintenant, Déborah, quels sont ces différents déclencheurs, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ces compulsions alimentaires ?
Oui, il me semble très important de comprendre qu'il y a plusieurs déclencheurs qui sont possibles, car souvent les personnes ont tendance à attribuer les compulsions alimentaires à une mauvaise gestion des émotions, ce qui n'est pas forcément le cas. Le premier déclencheur, c'est le facteur physiologique, dans lequel on va retrouver justement une mauvaise gestion de faim, qu'on a vu dans une précédente émission. C'est le premier facteur qui déclenche des pulsions. Dans 80% des cas, c'est de la mauvaise gestion de faim, ainsi que le manque en sérotonine. Auquel cas, nous avons souvent une perturbation sur l'endormissement. On a du mal à s'endormir, en fait, quand on va pour dormir. On ne trouve pas le sommeil. Et donc, souvent, ça peut amener à faire des compulsions plutôt sucrées en fin de journée. Et le corps cherchant, alors par la pulsion, à maintenir ses constantes vitales pour équilibrer ses manques. Parce que quand on va manger du sucre, en fait, en fin de journée, le sucre étant un générateur, un précurseur de sérotonine, et ben ça va permettre au corps de sécréter de la sérotonine en réponse à cette ingestion de sucre. Ce qui fait que quand, en général, la première cause qu'on repère, quand les personnes me disent « moi j'ai fait une pulsion de sucre en fin de journée », est-ce qu'il y a des difficultés à l'endormissement ? Si c'est le cas, eh ben on peut travailler un peu en micronutrition, par exemple. Le deuxième facteur, effectivement, c'est le mauvais accueil émotionnel, une difficulté à accueillir les émotions de manière générale, de plus ou moins grande intensité. Et lorsque nous avons du mal à accueillir nos émotions, nous pouvons nous voir en train d'essayer de les contrôler avec l'alimentation. L'acte alimentaire apportant de la sérotonine, c'est-à-dire quand on va manger, on va sécréter aussi de façon naturelle de la sérotonine, nous avons le sentiment de mieux-être assez rapide. Donc on a l'impression que ça fonctionne, et puis en réalité ça fonctionne, mais à très court terme, parce que l'émotion revient et ça ne permet pas de répondre aux besoins émotionnels. Oui.
On essaie de pallier un manque, un peu comme un pansement, une nourriture pansement quelque part, non ?
Oui, c'est exactement ça. C'est de l'évitement, on appelle ça de l'évitement. C'est un pansement, mais on ne traite pas la difficulté principale. Le troisième facteur, c'est le facteur cognitif, qui reste celui en réalité qui est très présent dans une situation de difficulté d'image corporelle. C'est-à-dire, le facteur cognitif, c'est toutes les restrictions, toutes les pensées, les règles rigides qu'on va se mettre avec l'alimentation. Donc ça peut aller de la restriction simple à la frustration. Et résumant ainsi, l'acte alimentaire a une action déconnectée des besoins réels, un peu automatisée, pourvu de jugement. C'est-à-dire, on n'arrête pas de se faire des jugements sur soi. Et notre tête prend le dessus sur notre corps et notre cœur en occultant complètement leurs besoins. Donc nous assistons souvent à une réflexion binaire. C'est ou tout ou rien, quoi. Soit on mange rien du tout, soit on tombe dans le foutu pour foutu et on mange des quantités extrêmes.
Et donc on culpabilise après, bien sûr, c'est normal
de culpabiliser après. Hein. Et donc le dernier facteur déclenchant, et ben, c'est celui du contexte. Tout simplement le contexte dans lequel on se trouve. Les habitudes faites de manière inconsciente dans un contexte donné. Par exemple, si à chaque fois qu'on va passer devant la boulangerie, on va prendre ce chemin, on passe devant cette boulangerie du coin, et ben en fait, ça va nous donner le besoin de rentrer acheter une viennoiserie ou acheter d'autres choses. Et on peut être amené à avoir une pulsion ou à chaque fois qu'on va se retrouver seul, chez soi, devant l'ordinateur, devant la télé, et ben en fait, on peut avoir une pulsion.
D'accord.
Il peut y avoir plusieurs facteurs déclenchants en même temps, hein. C'est pas forcément un isolé, c'est souvent d'ailleurs plusieurs facteurs déclenchants.
On pourrait l'assimiler à un TOC finalement, c'est un TOC alimentaire ça, ce dont vous parlez.
Ouais, c'est pas vraiment un TOC alimentaire, c'est plutôt un comportement un peu pavlovien, c'est des automatismes. Il y a un peu de ça, mais c'est un automatisme des fois même qui est inconscient. Le TOC, c'est souvent conscient, à la différence du TIC, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Ok, eh bien écoutez, Déborah, on va refaire une petite pause devant ces précisions, et puis on va revenir dans quelques instants pour parler de ces nécessités, de réguler un petit peu tout ça, pour que ça passe beaucoup mieux.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous sommes de retour avec Déborah donc pour parler des compulsions alimentaires, donc d'une manière générale, ce qui fait qu'on va se porter vers quelque chose régulièrement pour le manger, pour satisfaire éventuellement quelque chose, dont ce dont on a parlé juste avant avec vous Déborah. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réguler tout ça.
Et oui, de manière générale en fait, le corps c'est un système qui s'autorégule naturellement. Néanmoins, lorsque certains facteurs se déséquilibrent, comme l'alimentation, la régulation se fait mal et des signaux corporels se font savoir pour pouvoir assurer l'équilibre et jauger, en fait, comme des compulsions alimentaires. On pourrait donc considérer, dans une certaine mesure, que les compulsions alimentaires, c'est des sortes de moyens du corps pour pouvoir rééquilibrer ses besoins et ses constantes. Et ainsi, ce comportement qui est mal vécu deviendrait un peu une sorte de comportement sauveur. C'est un peu une perspective intéressante à avoir. Donc, pour que le corps soit en parfaite harmonie, il a besoin d'une harmonie entre ses différentes sphères de vie. En premier lieu, on pourrait citer une nutrition adaptée, apportant tous les besoins nutritionnels sans restrictions ou interdits mentaux. Il a besoin d'un sommeil de qualité, avec un nombre d'heures suffisant et spécifique à chacun, en respectant des cycles circadiens optimaux, sans coupure et perturbation. On a besoin d'une gestion bienveillante et accueillante de ses émotions, permettant des comportements pragmatiques, une relation à soi compatissante. C'est-à-dire que se parler très durement, tout le temps, c'est pas fonctionnel.
Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui finalement se victimisent tout seuls.
Mais oui, mais ça c'est beaucoup quand la relation à l'image est perturbée.
Il faut être gentil avec soi-même.
C'est très fréquent. le moins d'injections chimiques en optant pour des apports naturels les moins transformés possibles. Donc une alimentation la moins transformée, la plus brute possible. Choisir des aliments naturels, pas préparés, pas déjà cuisinés le plus possible. Une vie sociale et relationnelle épanouie, incluant des contacts fréquents et réguliers, apportant convivialité, bien-être. On a besoin aussi de travailler notre mouvance, la façon de se mouvoir dans notre quotidien, de casser un peu la sédentarité. En fait, tous ces facteurs participent à une gestion optimale et naturelle du métabolisme humain et font partie de la sphère, en tout cas, du travail sur le prendre soin de soi.
On a vu donc un petit peu tout ce que pouvaient créer toutes ces compulsions alimentaires et puis cette manière que l'on peut avoir de réguler un peu tout ça. Donc c'est très simple quand on regarde bien ce que l'on pourrait faire, le besoin de sommeil, la nutrition adaptée, une vie sociale et relationnelle épanouie, ses amis, tout ça. Ça paraît simple quand on regarde.
En théorie, ça paraît simple, bien sûr. En théorie, ça paraît simple. Après, c'est pas tout le temps évident et surtout, c'est pas tout le temps linéaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des périodes où on va bien réussir, d'autres périodes où on va moins bien réussir. On fait ce qu'on peut en réalité, mais c'est important de travailler autour de toutes ces sphères et de prendre en compte toutes ces sphères. Pas une sphère plus qu'une autre en réalité. C'est un équilibre, harmonie, en harmonie en fait avec tout ça.
En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aborder cette alimentation vraiment sereinement ?
Et en conclusion, les compulsions alimentaires augmentent parallèlement que les conflits avec l'alimentation se font savoir, avec la relation à l'alimentation. Donc, aborder l'alimentation dans une optique apaisée, de plaisir et non comme un objectif de contrôle de l'image, ça mène très souvent à une relation sereine avec l'alimentation et ça diminue, voire supprime complètement les compulsions alimentaires. L'acte alimentaire étant vital, son unique but devrait de nous permettre de rester en fait en vie et de prendre soin de nous. C'est apporter du soin en fait à travers ce que nous mangeons tout simplement et comment nous le mangeons. Aussi, se faire happer par des rythmes de vie trop agités où notre bien-être reste secondaire, comme je disais précédemment dans une autre émission, que très souvent les personnes oublient de manger, oublient de dormir, c'est le travail avant tout, ce qui peut se comprendre. Et en même temps, quand on tombe par terre, c'est difficile de revenir après en arrière. Donc les signaux corporels, en général, s'accentuent quand c'est comme ça. On a souvent des signes annonciateurs avant qu'on arrive à la phase où on est par terre. Et donc, poser un instant de réflexion sur cette difficulté comportementale que représentent les compulsions alimentaires me semble en tout cas très nécessaire. Se donner les moyens juste d'avoir une vie en accord avec les dimensions importantes de notre vie en posant des limites qui doivent être fonctionnelles. Alors, poser des limites sur les horaires de travail, poser des limites sur le nombre de sommeil, poser des limites dans notre vie de manière générale, dans l'idée de prendre soin de nous de manière quotidienne et dans tous les contextes de vie, c'est vraiment essentiel à mon sens.
Et donc ne pas hésiter évidemment à se faire aider par des personnes comme vous, diététiciennes, nutritionnistes. En tout cas, c'est important parce qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. On est bien d'accord, Déborah ?
Exactement.
Très bien. Alors si vous voulez réagir ou poser des questions, bien évidemment au fur et à mesure et puis sur les prochaines émissions et encore maintenant, n'hésitez pas, envoyez-nous un message au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Merci beaucoup, Déborah.
Eh ben, avec grand plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine, donc.
À la semaine prochaine.
Avec une nouvelle émission aussi importante, puisque vous nous nourrissez le corps et l'esprit comme Nutri Radio. Alors, l'émission est disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Déborah.
À la semaine prochaine.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.